VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition de 18h30, temps universel du vendredi 27 septembre 2019. John Lyndon pour vous présenter cette édition. Tout d'abord, les titres. Drame au Nigeria, 190 enfants libérés d'une école coranique de Kaduna. Certains y ont subi de très mauvais traitements.
C'est juste 190 personnes. C'est pas comme plus de 300 personnes, non. C'est juste 190 personnes.
Trois casques bleus sénégalais sont morts ce vendredi dans un accident d'hélicoptère en RCA. Prestation de serment à Abidjan des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante. Les Afghans sont appelés aux urnes demain pour élire leur président. Plus de 100 000 soldats ont été déployés suite aux menaces lancées par les talibans. Et puis ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bonsoir à tous. Au Nigeria, au moins 190 enfants qui étaient détenus dans une école coranique ont été secourus par la police à Kaduna. Certains affirment avoir subi de très mauvais traitements. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
La descente de la police dans l'école coranique a eu lieu hier soir dans le quartier Rigaza à Kaduna, dans le nord du Nigeria. La police a découvert près de 200 élèves et étudiants de nationalités différentes enfermés et enchaînés dans cette maison de l'horreur, surnom donné à cette madrassa par les médias locaux. Certaines victimes ont déclaré avoir été violées. Le propriétaire de l'établissement et ses 6 assistants ont été arrêtés. Les responsables de l'école coranique faisaient vivre ces garçons, dont certains avaient à peine 9 ans, dans des conditions inhumaines et dégradantes, sous couvert de leur apprendre le Coran, a expliqué Yakubu Sabo, porte-parole de la police de l'État de Kaduna. La police a également trouvé une chambre où des élèves étaient suspendus à des chaînes et battus lorsque les enseignants estimaient qu'ils avaient commis une faute.
En RCA, 3 casques bleus sont morts ce vendredi dans un crash d'hélicoptère à Bouar dans l'ouest du pays. Selon des sources locales, l'appareil revenait d'une opération militaire dans le nord-ouest du pays. À Bangui pour VOA Afrique, correspondance de Freeman Sipila.
Le crash a eu lieu peu avant midi, selon des sources officielles, jeunes par VOA Afrique à Bouar. L'hélicoptère, piloté par 4 casques bleus sénégalais, aurait manqué son atterrissage après avoir participé à une opération militaire dans la région du Nord-Ouest. Il aurait été touché par des balles, mais selon la MINUSCA, le crash est dû à de mauvaises conditions atmosphériques. 3 des 4 membres de l'équipage sont morts dans l'accident. Le survivant, dans un état critique, suit encore des soins intensifs dans un hôpital. Depuis hier, 2 violents combats opposent les casques bleus portugais de la MINUSCA aux éléments des 3R dans la localité de Degol dans l'Ampindé. Aucun bilan de cet affrontement n'est encore disponible, mais plusieurs sources locales ont indiqué à VOA Afrique que plusieurs bases de ces éléments rebelles, signataires de l'accord de paix du 6 février, ont été détruites entre Degol et Kui. Les 3R dirigés par le chef de guerre camerounais Abbas Sidiki s'oppose depuis plusieurs jours aux opérations de désarmement en cours dans le cadre du DDRR, le processus du grand désarmement. Abbas Sidiki lui-même a démissionné début septembre de son poste de conseiller du Premier ministre en charge des unités spéciales mixtes de sécurité dans le Nord-Ouest. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
Les professionnels de la santé au Libéria ont mis fin ce vendredi à leur grève qui avait débuté il y a 5 jours. Après un accord avec le gouvernement pour le paiement des salaires et l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux. C'est ce que font savoir leurs syndicats et des autorités. La grève avait débuté le 23 septembre et concernait plus de 10 000 professionnels de la santé au Libéria, dont plusieurs n'avaient pas au déclenchement du mouvement reçu leur salaire du mois de juillet. Selon leurs responsables syndicaux. En Côte d'Ivoire, malgré les critiques de l'opposition, les 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante ont prêté serment aujourd'hui. Ils ont juré de travailler en toute indépendance. Les précisions avec Irénée Herman-Humbo.
Je m'engage à exercer ma fonction en toute indépendance et toute impartialité et à garder secret les délibérations et votes même après la cessation de mes fonctions, ont juré chacun d'eux au Conseil constitutionnel à Abidjan. Le doyen d'âge va fixer une date pour réunir la commission et élire son président. Aucun membre du PDCI ne figure dans cette commission. L'ancien parti au pouvoir conteste la nouvelle CEI. La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui regroupe des partis d'opposition et des associations de la société civile, dénonce une commission taillée sur mesure avec 11 membres favorables au pouvoir sur les 15 qui composent la CEI. L'opposition accuse 4 représentants de la société civile et une des 3 représentantes de l'opposition d'être favorables au camp du président Alassane Ouattara. Cette nouvelle commission est chargée d'organiser les élections de 2020, 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait près de 3000 morts.
Des centaines de milliers de fidèles venus de tout le Sénégal ont afflué ce vendredi à pied, en bus et en voiture pour prier dans la nouvelle grande mosquée de Dakar. Bâtiment grandiose manifestant à leurs yeux le rayonnement d'une des plus puissantes confréries musulmanes du pays, les Mourides. Le lieu de culte géant peut accueillir jusqu'à 30 000 fidèles sous sa coupole dorée, dans ses salles de prière et sur son esplanade. Mais tout le monde n'a pas trouvé place derrière le calife des Mourides et les personnalités politiques ou religieuses agenouillées ou au premier rang. L'inauguration a été précédée pendant des jours d'une effervescence nationale, religieuse et identitaire. Le Sénégal, musulman à 90%, est réputé pour sa tolérance religieuse. La dépouille de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été transférée de la capitale Harare à son village natal de Kutama, dans le nord, en préparation de son enterrement prévu samedi. Mort le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour, Robert Mugabe avait initialement reposé au Panthéon national des héros de la lutte de libération à Harare, ainsi que le souhaitaient les autorités. Et puis le président Abdel Fattah al-Sissi, qui dirige l'Égypte d'une main de fer, a déclaré ce vendredi ne pas être inquiet face à de possibles manifestations contre son pouvoir, une semaine après des rassemblements similaires inédits ayant conduit à plus d'un millier d'arrestations. Au Caire et dans les grandes villes du pays, la présence policière a été renforcée, en particulier sur la place Tahrir au Caire, épicentre de la révolte populaire de 2011 qui a chassé le président Hosni Moubarak du pouvoir dans le sillage du printemps arabe.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Afghanistan a déployé plus de 100 000 soldats et policiers pour protéger les bureaux de vote avant l'élection présidentielle de samedi, que les talibans menacent de perturber par des attentats suicides et des tirs de roquettes. Nathalie Barge.
C'est la 4e élection présidentielle en Afghanistan depuis 2001, lorsque la coalition dirigée par les États-Unis a renversé l'ancien régime des talibans après les attentats terroristes du 11 septembre. Le groupe insurgé a depuis lors considéré le gouvernement afghan soutenu par l'Occident comme un régime fantoche et s'est engagé dans une insurrection sanglante qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, principalement des civils. Les talibans ont revendiqué plusieurs attaques meurtrières au cours des dernières semaines à travers le pays, ciblant des rassemblements et des centres d'enregistrement des électeurs. 18 candidats s'affronteront, mais seul le président sortant, Ashraf Ghani, qui brigue un second mandat de 5 ans, et le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, ont une chance de l'emporter.
Les protestataires à Hong Kong ont entamé vendredi plusieurs journées de nouvelles manifestations avant le 70e anniversaire de la Chine communiste qui doit être célébré en grande pompe mardi. Les manifestants pro-démocratie sont décidés à ternir l'éclat de ces festivités après 4 mois d'énormes manifestations souvent marquées par des violences. Vendredi soir, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur une place pour écouter les témoignages d'activistes activistes récemment arrêtés. La France se prépare à rendre hommage à Jacques Chirac au lendemain de la mort à 86 ans de son ancien chef d'État. Un hommage populaire lié à la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français sera organisé dimanche après-midi à l'Hôtel National des Invalides, où les Français pourront venir se recueillir auprès de son cercueil avant une journée de deuil national décrétée lundi. C'est aussi lundi que l'ancien président sera inhumé dans un cadre strictement privé au cimetière parisien de Montparnasse, où repose sa fille Laurence, décédée en 2016. Et puis le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo va se rendre la semaine prochaine en Italie avec une étape très personnelle dans la région d'origine de sa famille, puis dans les Balkans où il s'efforcera de contrer l'influence russe. C'est ce que fait savoir le département d'État ce vendredi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nanit Talani.
Selon l'agence Reuters, le PDG de la société Eni, Claudio Descalzi, fait l'objet d'une enquête sur un conflit d'intérêts dans le cadre des transactions au Congo. Il n'avait pas révélé que son épouse était derrière Petroservice. Selon les procureurs à Brazzaville, cette société a bénéficié de contrats de près de 105 millions de dollars avec Eni de 2012 à 2017. Le PDG d'Eni est aussi l'un des accusés dans un procès pour corruption au Nigeria pour un achat de 1,13 milliard de dollars d'un champ pétrolier. Eni fait l'objet d'une enquête par les procureurs de Milan pour corruption présumée en République du Congo entre 2009 et 2015. La société minière canadienne Bonro Corporation a suspendu ses opérations sur plusieurs de ses sites en RDC au début du mois à cause d'un cas de force majeure. Elle affirme que de graves problèmes de sécurité persistent malgré la libération des employés pris en otage en juillet par des rebelles. Pour terminer, le régulateur des télécommunications de la Zambie a annulé les licences de réseaux et de services émises à Vodafone Zambia qui devra cesser ses activités à partir du 20 octobre.
Et Yacouba Ouidraogo nous a retrouvés, c'est pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors, joueur FIFA de l'année, le vote de l'Égypte non pris en compte pour vice de forme.
Oui, la FIFA a expliqué que l'Égypte n'a pas pu voter pour Mohamed Salah parce que le formulaire de vote soumis par sa fédération le 15 août présentait des signatures en majuscules qui ne semblaient pas valides. Ces formulaires n'ont pas non plus été signés par le secrétaire général, ce qui est obligatoire, a affirmé l'instance mondiale. Le vote du sélectionneur Chaouki Garib et celui du capitaine Ahmed El Mohamadi ne sont pas mentionnés dans la publication des votes par la FIFA. La fédération égyptienne a mentionné que tous les deux ont placé Salah en tête. La FIFA a assuré avoir envoyé deux rappels le 19 août à la fédération égyptienne pour confirmer les choix de vote du sélectionneur et du capitaine. Des demandes restées sans réponse.
À l'issue du week-end, on connaîtra tous les qualifiés pour la phase de groupe en Ligue africaine des champions.
Le champion en titre, l'Espérance de Tunis, reçoit les Tchadiens d'Electa Sport. L'AS Vita Club compte profiter de l'avantage à domicile pour passer devant les Togolais de l'ASK, qui les ont tenus en échec à l'aller à Lomé 0-0. Situation identique pour le tout-puissant Mazembe qui reçoit Fossa Junior à Lubumbashi. Handicapé par la démission de son coach Fawzi Benzati, l'étoile du Sahel tentera de se relever de sa défaite 2-0 au Ghana face à la Santé Kotoko. Le grand Zamalek doit aussi refaire son retard à Dakar 2-1 face à Génération Foot. Net avantage pour les Algériens de la JS Kabylie qui se rendent à Conakry avec 2 buts d'avance pour y affronter le Oroya. Avec sa large victoire à l'aller 5-0, Mamelodi Sundowns voudrait terminer le boulot devant Côte d'Or.
Et puis Yacouba, tout comme la Ligue des champions, la Coupe CAF va livrer ses qualifiés pour les barrages ce week-end.
Les Congolais de DC Motoma Pembe ont l'occasion de confirmer à domicile après leur succès à Ondurman. Maranatha se déplace à Bamako avec un handicap d'un but face à Djoliba. Finaliste l'an dernier, les Marocains de Berkane veulent renverser la vapeur devant Asante Gold du Ghana. San Pedro de la Côte d'Ivoire croisera les crampons contre Saint-Toba de la Guinée. À suivre aussi le duel Salitas Ezaï à Ouagadougou ou encore CS Faxien de la Tunisie, Paradou AC de l'Algérie, El Masri d'Égypte fera face à Malindi de Zanzibar.
Et on va terminer, Yacouba, par le basketball. Bamako accueille présentement la première édition du forum Mini Basket Afrique.
Le tournoi a commencé hier et s'étalera sur 5 jours. Ils sont plus de 400 enfants âgés de 8 à 12 ans à y prendre part. C'est une initiative de la Fédération malienne de basketball appuyée par FIBA Monde. Ce camp vise à inculquer aux tout petits les automatismes de la balle au panier.
Présentement, nous-mêmes, nous voyons les lacunes que nous avons au niveau senior. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas commencé très tôt. Que ce soit des shoots, que ce soit des dribbles, que ce soit les déplacements sur le terrain, que ce soit la défense. Si vous les apprenez tôt, ça vous facilite pas mal de choses sur le terrain.
Haruna Maïga, président de la Fédération malienne de basketball, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Merci Yacouba et bon week-end.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour et on commence par Washington, la capitale américaine où nous nous trouvons. Madame Nancy Pelosi, leader de la majorité démocrate de la Chambre des représentants, a annoncé mardi le lancement d'une enquête parlementaire en vue de l'éventuelle mise en accusation du président Donald Trump. Quelles sont les principales étapes que devrait suivre cette procédure? Nous nous sommes entretenus avec Henri Francisque, journaliste ici à VOA Afrique.
Il y a une commission à la Chambre des représentants qui est chargée de préparer des chefs d'accusation dans le cadre de cette procédure. Il s'agit d'examiner les faits reprochés au chef de l'exécutif américain, à savoir Donald Trump, et puis ensuite préparer un dossier d'accusation avec des chefs d'accusation qui définissent de façon précise les infractions commises par le chef de l'État.
Alors, et à quoi peut-on s'attendre à l'issue de cette procédure selon que le président américain soit fautif ou pas?
Eh bien, si la commission estime que le président a commis des infractions, à ce moment-là, on définit des chefs d'accusation. C'est-à-dire, ça peut être l'obstruction de la justice, ça peut être le parjure, s'il a fait des déclarations qui n'étaient pas correctes dans le cadre de l'enquête. Donc, une fois ces chefs d'accusation préparés, elles sont soumises à l'ensemble de la Chambre des représentants. Et là, il y a un vote. Pour que la procédure d'impeachment soit enclenchée officiellement, le vote doit être défavorable au président, c'est-à-dire à une simple majorité. Une majorité de députés estime que le président a commis les chefs d'inculpation reprochés. On vote et il est officiellement impeached, c'est-à-dire mis en accusation.
Alors, dans le passé, on a eu affaire à ce genre de procédure. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci?
Bon, il n'y aura pas de différence dans la mesure où une fois que les articles d'impeachment, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les chefs d'accusation sont approuvés à la majorité simple par la Chambre des représentants, le dossier est transmis au Sénat. Et c'est le Sénat qui va juger le président et déterminer s'il mérite d'être destitué, c'est-à-dire de perdre son poste. Donc ça s'est déjà produit en trois fois dans l'histoire des États-Unis et le président va être jugé par ses pairs parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est président, on occupe la magistrature suprême, donc on ne peut pas être jugé par un tribunal normal. Le seul tribunal qui peut juger un président des États-Unis, c'est le Sénat dans le cadre d'une procédure d'impeachment.
Henri Francisque, journaliste ici à VOA Afrique. Nous le signalions en début de journal, au Nigeria, 190 enfants qui étaient détenus dans une école coranique ont été secourus par la police à Kaduna. Certains affirment avoir subi de très mauvais traitements. Idriss Fall a joint à Kaduna justement notre confrère Ibrahim Yakoubou qui s'est rendu sur place.
Oui, depuis le matin, j'ai quitté la maison pour aller voir cette école arabique qui a été fermée depuis hier nuit. Il y a aussi les enfants qui ont été arrachés par les policiers d'après l'enseignement qu'ils ont eu à propos de le meilleur facteur qui, lui, le dirigeant de cette école est en train de faire et dont les policiers sont arrivés et puis fermer cette école. Depuis là, je suis parti pour voir. Alors, en arrivant, j'ai vu les deux voitures des policiers. Alors, j'ai commencé à demander les voisins. Ils ont dit, ah, cette école a été fermée. Alors, où sont les enfants? On m'a dit qu'ils ont allé essayer le commissariat de police. En arrivant là-bas, on m'a dit non, ils sont pas là. Ils ont à un endroit là où on a l'habitude d'arranger les musulmans qui sont en train de planifier pour aller en Arabie Saoudite, qu'on appelle le Hajj Camp. En arrivant là-bas, j'ai vu les enfants. D'après, on avait calculé, après 190, j'ai vu les enfants, mais quand même, il y a beaucoup de policiers qui sont là. Ils ne m'ont pas autorisé d'aller. Mais parmi aussi les enfants, d'après ce que les policiers m'ont dit, il y a trois qui sont malades. Et puis je les ai vus maintenant, ils ont la liberté d'aller jouer. On m'a montré ce que leur chef est en train de faire avec les chiens, qu'il a l'habitude de les garder et puis il est très, très, très mal.
Les propriétaires de cette école coranique, ils sont où? Apparemment, on les a arrêtés?
Vous savez, regarde ça, c'est là où il y a trop de gens. D'après le renseignement que j'ai eu, le chef a été confronté avec les policiers comme ça. C'est pour la première fois. Et depuis le moment qu'il a créé cette école, plus de 10 ans, on n'a pas eu un policier qui n'a jamais même tenté d'aller lui confronter pour lui demander de quoi s'agit-il cette école, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner, qu'est-ce qu'il fait même. C'est la première fois.
Mais qu'est-ce qui a alerté les policiers alors sur les traitements? Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir que les enfants étaient enchaînés et maltraités?
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a un désaccord entre un parent et puis le chef de l'école. Il est venu voir son enfant et voilà, on a dit que non, il ne faut pas. Lui, il a appelé les policiers et puis ils sont arrivés et ils ont rentré, ils ont dit que vraiment il y a un grand problème dans cette maison. Les enfants avec les chiens. C'est pour cela qu'ils ont, avec lui, le chef des policiers de Kaduna, ils ont attrapé tout. À la fin, c'est juste 190 personnes. Ce n'est pas comme pour 300 personnes, non. C'est juste 190 personnes. Parce que c'est vrai, c'était devant moi qu'on a calculé les enfants et puis il y a les adultes qui sont là.
Et est-ce que les parents ont pu récupérer leurs enfants?
Devant moi, il y a beaucoup de parents qui sont arrivés récupérer les enfants. J'ai vu les parents, plus de 10 personnes, des femmes, sont arrivées pour récupérer leurs enfants. Mais on les a dit non, on ne va pas les donner leurs enfants aujourd'hui, ça sera peut-être le lundi.
Notre confrère Ibrahim Yakoubou, journaliste à Kaduna dans le nord du Nigeria. En Guinée, cela fait 10 ans que plus de 150 personnes ont été tuées par les éléments de l'armée dans le plus grand stade de football de Conakry. Ce bilan donné par une enquête de l'ONU qualifie les faits de crimes contre l'humanité. Mais la Cour suprême de Guinée a requalifié il y a quelques mois ces tueries en crimes de droit commun. Pour les victimes, ce dossier n'a que trop duré alors que les autorités judiciaires guinéennes parle de conditions à réunir pour un bon déroulement du procès. Les derniers éléments de ce dossier à Conakry avec Zakaria Camara, notre correspondant dans la capitale guinéenne.
Toutes les dispositions doivent être prises au plein rigueur pour la tenue du procès, a tenté de rassurer jeudi le ministre guinéen de la Justice. Plus de 500 victimes sont à protéger et au moins 400 témoins doivent être entendus, poursuit Mohamed Lamine Fofana. Mais pour l'organisation du procès, il faut deux conditions, dit le ministre guinéen de la Justice aux journalistes lors d'un point de presse.
D'abord, il fallait un local pour abriter le procès. Les salles d'audience, tant de la Cour d'appel que des trois tribunaux de Conakry, ne peuvent pas abriter un tel procès. Alors, le choix était porté sur l'ancien cinéma Liberté qu'on devait rénover. Eh bien, on a été obligé de changer d'option pour retenir, n'est-ce pas, la réalisation de bâtiments au sein de l'enceinte de la Cour d'appel de Conakry pour abriter ce procès. De deuxième difficulté, il fallait choisir les hommes, n'est-ce pas, chargés d'animer cette procédure.
La partie civile avait contesté la réqualification des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, mais elle a été déclarée non fondée par la Cour suprême qui, à son tour et après la Cour d'appel, considère le massacre du 28 septembre comme étant des crimes ordinaires. Quant aux défenseurs des droits de l'homme, ils s'étaient réjouis de l'arrestation et l'inculpation d'Aboubacar Toumba Diakité, ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara, lui-même chef de la junte au moment des faits. Le ministre guinéen de la Justice assure qu'il bénéficie d'un régime spécial, mais son avocat dit le contraire et clame l'innocence de son client.
Il a une pathologie qui le traîne. et qui ne pourra pas lui permettre de comparaître devant une quelconque formation judiciaire en vue de ce procès, à moins d'être jugé.
L'instruction a été close il y a 2 ans, un comité de pilotage mis en place, mais pas assez pour rassurer les victimes. Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes et parents du 28 septembre.
Si le procès n'est pas organisé, ce qui veut dire qu'on va continuer à faire des pressions, à faire des déclarations et à réclamer.
Le 28 septembre 2009, une manifestation de milliers de personnes contre la candidature du chef de la junte est réprimée par l'armée au stade 28 septembre de Conakry. 157 personnes ont été tuées et plus de 100 femmes violées, selon l'ONU. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Depuis début septembre, tant pour moi, Mohamed Ali, un entrepreneur égyptien en exil, a posté une série de vidéos sur Facebook accusant le président Abdel Fattah al-Sissi de corruption et a appelé à manifester. Ceci a poussé des centaines de personnes à manifester les 20 et 21 septembre au cri de « Sissi dégage » avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène. Pour avoir l'ampleur de ce mouvement, Eric Manirakiza a joint au Caire le journaliste Karim Farouk.
Bon, il y avait des appels avant cette journée-là pour des manifestations. Suite aux manifestations qui s'est déclenchées la semaine dernière. Mais cette semaine-là, elle était vraiment très, très, très limitée. Presque pas des dizaines dans des petits quartiers. Il y avait un contrôle sécuritaire assez strict tout au long de la semaine. La police était répandue partout, les voitures de sécurité partout dans le Caire, surtout dans la place Tahrir, bien sûr. Aujourd'hui, c'était vraiment très, très limité. Du coup, qu'il y avait de grandes surveillances tout au long de la semaine. Quoi.
On peut dire que le régime a pris le dessus?
Ah oui, bien sûr, totalement.
Est-ce que c'est un mouvement inspiré de ce qui s'est passé, par exemple, au Soudan?
Non, je pense pas vraiment. Il y avait des appels depuis plusieurs semaines. Il y a bien sûr un air de mélancolie un peu en Égypte du fait des dernières réformes économiques, de la répression au niveau des libertés d'expression. Et donc, il y a vraiment un air de mésentente ces derniers jours-ci. Mais il y avait une grande mobilisation depuis la semaine dernière au niveau des réseaux sociaux et des médias représentant l'État, tout, quoi. Il y avait une énorme mobilisation, même les artistes aujourd'hui, une énorme manifestation pro-régime au Caire. Les caméras ont filmé des milliers de personnes qui étaient présentes.
Est-ce que c'est un mouvement qui peut se renforcer progressivement ou c'est un mouvement qui va carrément s'estomper?
On ne peut pas vraiment prévoir. Déjà la semaine dernière, c'était une surprise. Je pense même que pour les forces de sécurité et le régime lui-même, c'était une surprise qu'il y a eu... Même si c'est des nombres assez limités, qu'il y a eu des protestations, rien n'est prévu. On peut dire que personne ne va sortir, d'autres fois il y a. Les gens sont assez prudents afin d'éviter la brutalité. Quelque chose est sûr, c'est qu'il y a un air de mécontentement au niveau du public en général. Quoi. Même que ça devienne une révolte populaire, je pense que c'est, voilà, on est loin de parler de ce niveau-là. Mais bien sûr qu'il y a un air de mécontent.
Est-ce que le régime essaie de répondre aux revendications pour limiter l'ampleur d'un grand mouvement éventuel?
Le régime, on ne parle pas au niveau officiel qu'il y a des demandes publiques ou qu'il y a un air de mécontentement général. Non, ils disent que c'est des fausses accusations, que ce sont des traîtres, qu'une partie sont les frères musulmans. Ils disent seulement que ce sont de mauvaises allégations, des accusations qui sont complètement fausses. Et donc, il n'y a pas eu de réponse à cela.
Karim Farouk, journaliste au Caire en Égypte. Manu Dibango sur les platines et dans vos oreilles. Clin d'œil donc à l'un des monuments de la musique africaine, voire mondiale, qui célèbre ses 60 ans de carrière. Ce vendredi, on écoute la Wowa. Et c'est la fin de cette édition mise en onde par Lionel Gaïma-Rop. McLean était à la console. John Lydon vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Wasse wadi